Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition, qui ne dérogera pas, accentuons, articulons, à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un certain temps, déjà plus d'un siècle, largement plus d'un siècle maintenant. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière de l'un des plus grands acteurs suédois. Alors, si je vous dis ça, ça vous dira, suédois, pas trop. Mais en fait, Max von Sydow, puisque c'est de lui qu'il s'agit, si certes il aura débuté sa carrière dans sa Suède natale, l'aura ensuite et brillamment poursuivi dans le monde entier, comme on va essayer de l'évoquer. Max von Sydow, donc, qui est le fils d'un professeur de littérature comparée et d'une mère institutrice, donc pas vraiment un milieu d'enfants de la balle, est né à Lund, petite ville dans le sud de la Suède, le 10 avril 1929. Il est très tôt, comme souvent pour les futures vedettes, attiré par l'art théâtral et il fait donc ses études à l'école d'art dramatique de Stockholm, capitale de la Suède, comme je ne vous l'apprends pas, où petit à petit, eh bien, il se fait un nom avant d'entrer en 1955 au théâtre de Malmö, qui à l'époque est dirigé par rien moins qu'Ingmar Bergman. Et d'une certaine manière, pour Max von Sydow, comme pour Ingmar Bergman d'ailleurs, ça va être la rencontre de leur vie, puisque ces deux-là vont faire pas moins de 11 films ensemble, entre 1957 pour le premier que nous allons évoquer, j'y reviens, et 1970 pour le dernier. 11 films, c'est quand même un bail. Je ne sais pas si Max von Sydow a joué dans tous les films tournés entre 1957 et 1970 par Ingmar Bergman, mais en tout cas, c'est une façon d'apprentissage qui en vaut bien d'autres. C'était un jeune acteur, alors que Ingmar Bergman, quand il tourne son premier film avec lui, en est déjà à son 17e film. Donc lui, ce n'est pas un jeune réalisateur. Et ce film, eh bien, il est resté comme un des grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Il s'appelle Le Septième Sceau. Je vais vous épargner son nom en suédois, parce que je ne connais pas l'accent suédois. Et Le Septième Sceau, eh bien, c'est une histoire métaphorique, une sorte de méditation sur le bien et le mal, avec la présence presque, je dirais, en direct de La Mort, qui est un film qui se passe pendant le Moyen-Âge, d'une très grande beauté formelle. On sait que Ingmar Bergman se sera toujours attaché des directeurs de la photo parmi les plus excellentissimes de leur genre, et d'ailleurs beaucoup quitteront la Suède pour eux aussi faire carrière ailleurs. Et bref, même si le reste de la distribution, dans lequel on reconnaît quand même la toute jeune Bibi Anderson, autre actrice fétiche d'Ingmar Bergman, eh bien c'est Max von Sydow dans le rôle du chevalier Block, dans le rôle principal donc, qui illumine ce film. Et alors on va écouter un extrait de cette bande originale. 11 films auraient pu permettre d'en évoquer d'autres. Ce sera le seul. Pour le reste, on va aller dans d'autres aspects de la carrière de Max von Sydow. Mais ce sera une sorte de cristallisation en fait, d'une très longue et très fructueuse collaboration. La musique du Septième Sceau, elle est signée d'Erik Nordgren. Et on en écoute un bon extrait dans 24 notes secondes.
Thank you.
Vous l'aurez sans doute compris, de petits extraits mis bout à bout font un grand extrait de la bande originale du 7e Sceau, un film d'Ingmar Bergman tourné en 1956, une musique signée d'Eric Nordgren qui devait beaucoup, on l'entend à plusieurs reprises, au fameux Dies Irae, ce thème moyenâgeux qui correspond tout à fait à l'époque à laquelle le film se déroule, et on n'aura pas oublié certains moments fameux du film, comme un jeu d'échecs où Max von Sydow, dans le rôle du chevalier Bloch, pardonnez-moi, joue avec la mort, tout simplement. Le film est une méditation, en fait, sur la mort, un des très grands films d'Ingmar Bergman, et comme je l'ai déjà dit, eh bien, ces deux-là se sont trouvés, ils ne vont plus se quitter pendant plus d'une dizaine d'années, et leur collaboration très fructueuse donnera lieu à des films comme La Source, tourné en 1959, Les Communiants, redoutable Les Communiants, tourné en 1962, ou L'Heure du Loup, tourné en 1968, mais en 1965, la carrière de Max von Sydow a pris un tournant qu'on peut juger un peu radical, même si les deux vont cohabiter pendant un temps, puisqu'il aura été Jésus, tout simplement, dans la plus grande histoire jamais contée, un film de George Stevens qui est une parmi les centaines d'adaptations des évangiles tournées au cinéma. Alors celle-là présentait deux particularités, une plutôt bonne, l'autre moins. La première, c'est que l'essentiel du texte était justement tiré des évangiles et du Nouveau Testament. La seconde, c'est que si Max von Sydow était complètement inconnu des publics américains et européens, hors les fans d'Ingmar Bergman, pardonnez-moi, dans les années 60, eh bien, ce n'était pas vraiment le cas de l'ensemble des autres acteurs, puisque le film, tout au long de ses plus de 3 heures de projection, était l'occasion de faire défiler le banc et l'arrière-banc du cinéma hollywoodien de l'époque dans des petits rôles, mais en disant « Ah ben oui, là c'est machin, ah ben oui, là c'est truc », et certains critiques faisaient remarquer que avoir mis John Wayne dans le rôle d'un des soldats qui veille le Christ le jour de sa crucifixion, ben, c'était pas une très bonne idée parce qu'on voyait bien que c'était John Wayne et du coup l'authenticité de la chose en perdait un peu. La musique de ce film, donc la plus grande histoire jamais contée, elle était signée d'Alfred Newman qui lui aussi, comme les acteurs évoqués, est un vieux routier du cinéma américain depuis les années 40 en fait. Et on va écouter évidemment un extrait de cette bande originale, je vous le fais en anglais quand même, The Greatest Story Ever Told in 24 notes secondes. Un bel extrait de la partition d'Alfred Newman pour La plus grande histoire jamais contée, un film de George Stevens tourné en 1965, mais un bel extrait qui accentue l'un des reproches qu'on fit au film, à part le fait d'avoir ces apparitions agaçantes de stars dans des rôles mineurs, c'est le côté un peu Saint-Sulpicien de la reconstitution, très appliqué visuellement, même si, autre curiosité du film, tous les paysages ont été captés quelque part dans les déserts américains, ce qui en dit long aussi sur la fidélité des producteurs et autres. Mais bon, le sujet, il est évidemment éternel et Max von Sydow n'était pas un si mauvais interprète du rôle principal que cela. En tout cas, même si le succès relatif du film ne l'aida pas forcément, ça lui permit quand même de commencer une carrière internationale qui pendant quelques années s'alternera avec une carrière suédoise. Par exemple, en 1966, on le verra à la fois dans le Hawaï de George Roy Hill et dans les Feux de la vie de Jan Troell. Jan Troell, qui est un autre réalisateur suédois, évidemment moins connu mondialement que Ingmar Bergman, mais tout aussi estimable. Et avec Jan Troell, en 1973, eh bien, Max von Sydow tourna un diptyque, en fait, Les Émigrants et le Nouveau Monde, qui racontait justement, un peu comme le destin de Max von Sydow, eh bien, l'émigration d'une famille de Suédois de leur pays natal jusqu'aux États-Unis. Mais surtout, en 1973, eh bien, on eut ça. Qui, comme moi, ont fait semblant d'être jeunes dans les années 70, auraient peut-être reconnu les Tubular Bells de Mike Oldfield dans la bande originale de L'Exorciste, un film de William Friedkin qui cassa la baraque. Mais alors, maintenant, on n'en peut même pas l'imaginer. En 1973, L'Exorciste, c'est cette histoire d'une jeune fille incarnée par Linda Blair, la jeune Regan, et qui est possédée par un démon que le père Merrin, incarné justement par Max von Sydow, parvient à exorciser non sans douleur. Et en 1973, eh bien, William Friedkin le raconte dans ses mémoires, qui sont un chef-d'œuvre d'humour et d'intelligence. Eh bien, personne n'y croyait trop à ce film, et c'est quand on vit des queues hallucinante devant les salles de cinéma qu'on comprit qu'on tenait un grand succès. Et alors, depuis, des histoires d'exorcistes, de diables et autres, il y en a eu des centaines. Alors, soyons justes, avant l'exorciste, il y avait Rosemary's Baby avec Mia Farrow et John Cassavetes de Roman Polanski. Mais après l'exorciste, eh bien, il y eut toutes les versions possibles et imaginables, tellement le film eut un immense succès. Alors évidemment, aujourd'hui, 50 ans plus tard, les effets spéciaux paraissent parfois bien anodins. Ce qui reste, c'est quand même la voix du démon, puisque d'une façon très judicieuse, William Friedkin avait fait doubler la jeune Linda Blair par une actrice qui, elle, devait avoir 60 ans de plus qu'elle, en l'espèce Mercedes McCambridge, qui avait été actrice dans les années 60 et qui du coup prononçait tous les discours orduriers du démon d'une façon glaçante et saisissante. Bref, un film qui sans doute a un peu mal vieilli pour tout ce qui est de l'aspect proprement fantastique et trucage, mais qui reste une pièce maîtresse en tant que mise en scène, jeu d'acteur, lumière, etc. Là encore, je ne dirais pas que le public a toujours raison, mais s'il y a eu succès, c'est qu'il y avait quelque chose derrière ce succès. Et William Friedkin, par ailleurs réalisateur de French Connection, eh bien, était quand même un grand metteur en scène et qui savait distiller le suspense. Et Max von Sydow trouva là, sinon le rôle de sa vie, tout au moins l'un de ses rôles certainement les plus intéressants. Il faut dire que, j'ai oublié de le préciser, c'est anecdotique, c'était un grand acteur à tous les sens du terme, puisqu'il faisait quand même 1m93. Il aurait peut-être pu jouer presque dans une équipe de basket, heureusement pour nous. Il a rencontré Ingmar Bergman. Autant dire qu'après ce film, eh bien, Max von Sydow avait toutes les portes ouvertes devant lui et curieusement, comme souvent avec les acteurs, eh bien, il avait d'une certaine manière atteint le sommet de sa carrière d'acteur. Ensuite, et on va l'évoquer, il joua encore dans des films intéressants, mais rien qui soit à l'aune de ses dizaines de collaborations avec Ingmar Bergman et question succès commercial, rien qui soit à l'aune de celui rencontré par l'exorciste. On le vit notamment, c'est quand même un film très intéressant, dans Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack en 75 avec Robert Redford et Faye Dunaway. Et puis curieusement, mais c'est le propre aussi des acteurs qui viennent de petits pays avec des langues très peu parlées, c'est qu'ils sont immédiatement polyglottes et adaptables. Eh bien, on le vit entamer une carrière dans le cinéma italien. Et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film de Francesco Rossi, tourné en 1976. Ça s'appelle Cadavreschi. C'est une histoire assez compliquée de compromission commercialo-politique comme les Italiens savent le faire. Alors, aussi bien à la scène que dans la vraie vie. Hein, ça, on l'a déjà vu avec Berlusconi et autres. En l'espèce, c'était au cinéma. Et la distribution, elle était vraiment exceptionnelle, puisque aux côtés de Max von Sydow, il y avait ce cher Lino Ventura, il y avait Fernando Rey, Charles Vanel. Moi, je me souviens avoir vu ce film... quand il est sorti, Charles Vanel dans une des catacombes, et c'était assez hallucinant, puisque le visage même de Charles Vanel avait déjà, il mourra quelques mois plus tard, avait déjà, on avait l'impression que c'était un cadavre qui visitait sa future demeure. J'espère que je vous ai donné envie de voir Cadavreschi. Je ne sais même pas si j'avais déjà cité le titre. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Piero Piccioni, Cadavreschi dans 24 notes secondes. Ah ben cette fois j'ai vraiment été trop long. Un extrait de la bande originale de Cadavrexki, un film de Francesco Rossi. Max von Sydow nous a quittés le 8 mars 2020 en France, s'il vous plaît. Et on écoute pour conclure un extrait de la bande originale de Dune, David Lynch, 1934. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.